Voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Nous parlons d'éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, les universités catholiques dans le monde. Leurs effectifs ne cessent d'augmenter, notamment en France, plus 38% d'étudiants en près de 6 ans. Presque partout, ces universités catholiques sont un gage de qualité et sont plébiscitées par les étudiants, quelle que soit leur confession. Alors qu'est-ce qui fait leur succès dans le fond? Comment trouvent-elles leur place entre le secteur privé très lucratif et les universités publiques en déficit de financement? Quel encadrement pour les étudiants? Nous allons en discuter avec nos invités. Thierry Magnien, recteur de l'Université catholique de Lyon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également le président de la Fédération des universités catholiques d'Europe et vice-président de la Fédération internationale des universités catholiques. Et par ailleurs, vous êtes également prêtre. Pierre Giorgini, bonjour.
Bonjour.
Recteur de l'Université catholique de Lille. Nous serons également en ligne avec Paul Kadundu Karamikire, qui est recteur de l'Université catholique de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Une enseignante française à l'Université Sophia de Tokyo, au Japon, dans une université jésuite, nous dira à quoi ressemble une université catholique au pays du soleil levant. Elle s'appelle Muriel Jolivet, cette enseignante. Et quant à vous, les voisins, bien sûr, nous attendons vos témoignages, vos questions, si vous êtes inscrit dans une université catholique ou si vous y enseignez ou si vous avez envie d'être étudiant dans une université catholique. Le succès de ces universités vous semble-t-il justifié? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux. Quelques commentaires postés sur Facebook depuis hier. Que je vous lis, messieurs. Abdoul, qui est au Bénin, nous dit: pourquoi est-ce que ce sont les universités catholiques qui excellent de nos jours? Est-ce parce qu'elles sont plus chères ou plus sérieuses? Un élément de réponse peut-être, monsieur Giorgini.
Est-ce que c'est parce qu'elles sont plus chères? Non, parce que cela voudrait dire que nous avons plus de moyens et que donc nous faisons une qualité liée à nos moyens. Or, les statistiques montrent que nous avons plutôt moins de moyens. C'est-à-dire que le coût de l'étudiant formé, notamment en master, est moins élevé que le coût de l'étudiant formé en master dans le public. Un peu moins élevé. C'est probablement lié pas seulement au sérieux, je crois que c'est lié aussi à ce qui est dans nos gènes, c'est-à-dire l'accompagnement individualisé, la qualité de nos locaux.
Ouais. Enfin, alors évidemment, on va en reparler. Hein. Je vous lis le message de Jean à Bujumbura, au Burundi. Il nous dit que les universités catholiques sont peu nombreuses. Ces écoles sont entre les mains de l'Église catholique qui souhaite que ses étudiants représentent la réussite. Et c'est grâce à leur règlement éducatif que leurs élèves réussissent. On a un autre témoignage de Marcelin qui est à Yaoundé, au Cameroun. Les universités catholiques brillent grâce à leur sérieux dans la sélection des enseignants, leur rigueur vis-à-vis de leurs étudiants, les formations proposées, nous dit Marcelin, l'accès au stage aussi, l'accompagnement complet des élèves leur facilite l'insertion professionnelle. Seul hic, termine Marcelin, dans tout ça, c'est le prix. Yannick, à Lomé, au Togo, est-ce qu'après avoir fait ses études dans une université catholique, on a plus de chances de trouver du boulot? Point d'interrogation. Réponse,
alors,
Thierry Magnien.
Je pense que depuis toujours, en tout cas en France, les universités catholiques sont directement connectées au monde socio-économique. C'est le cas à Lille et Lyon en particulier, même fondées parfois par ce monde-là. Il y a une pratique des stages aussi, hein, dès la licence, ce qui n'était pas fait jusqu'à présent dans les universités publiques. Il y a donc un lien déjà direct qui favorise fortement l'employabilité. Et puis aussi, les industriels participent à l'élaboration des contenus pédagogiques notamment. Voilà, je pense que ce lien-là est extrêmement profitable pour les étudiants, bien sûr, et les futurs employés.
Faux à Sokodé au Togo également, ces universités, nous dit-il, sont très chères et exclusivement réservées aux enfants de riches. Vrai,
alors, bien sûr que c'est plus cher en France en particulier, hein, que les universités publiques où là, forcément...
Sur le continent africain aussi, en grande
partie. Nous essayons alors de ne pas les rendre... Nous sommes des associations, loi 1901, non lucratives. Hein, il s'agit juste d'équilibrer nos comptes. Donc ça, c'est une différence avec d'autres privés à but lucratif. Et puis, nous avons par exemple dans la plupart de nos universités entre 30 et 40% d'étudiants aidés, justement, jusqu'à parfois 100%. avec des bourses. Vraiment
30
que...
à 40% d'étudiants boursiers. Donc si vous dites aider, c'est...
Aider, bah, ils peuvent être aidés pleinement à 100%.
Voilà, ça peut être des petites
ils
bourses.
Être, mais... Ils peuvent être aidés avec des quotients familiaux. Mais pour que l'argent ne soit pas le critère réduit.
Vous nous a...
oui. Oui, si on veut regarder le différentiel, nous à Lille, on a ce qu'on appelle des barèmes sociaux. Et une scolarité chez nous pour des enfants issus de milieux aisés sur des masters importants peut atteindre 7 à 8 000 euros. Mais pour des enfants à faible revenu, nous tombons à 2 500 euros. Il y a donc bien un différentiel par rapport aux universités publiques, où on est plus bas que cela. Mais ce différentiel est tout à fait comblable.
Et quand on postule, quand on candidate pour entrer dans ces universités-là, est-ce que vous savez si ce candidat-là a des moyens financiers ou pas ?
Ah bah il est justement, pour pouvoir rentrer dans les barèmes sociaux, il doit fournir un certain nombre de pièces pour indiquer s'il est boursier d'État ou pas. Et en fonction de ça, la scolarité est beaucoup moins chère.
Donc évidemment, si on vient d'un milieu modeste et s'il apparaît dès sa candidature qu'on a peu de moyens financiers, on a peut-être moins de chances d'être recruté, non ?
Ah non, pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Là, c'est une question d'éthique et déontologique. Nous, on a à peu près 30% de barèmes sociaux plutôt bas. Et donc, on ne va surtout pas, alors là, sélectionner par l'argent, non.
En tout cas, vous nous appelez, les voisins et les voisines, pour poser toutes vos questions sur les universités catholiques dans le monde au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Nous accueillons une première question d'un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Willy nous appelle de Pointe-Noire au Congo. Bonjour Willy, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour Emmanuel.
Alors, vous aviez une question à poser à nos recteurs d'université catholique.
Oui, c'est ça. Alors, j'aimerais savoir, parmi les critères, en dehors du critère financier, quels sont les critères que l'université catholique met à disposition de ceux qui veulent l'inscrire?
D'accord, merci Willy pour cette question. Alors, est-ce que c'est toujours les mêmes critères? Qui dit université catholique dit universalité des critères ou pas d'ailleurs?
Oui, bien sûr. Il faut savoir d'abord que la religion n'est pas un critère. Je le dis tout de suite. Hein. Il y a toutes les religions représentées. D'ailleurs, quand il y a 20% d'étudiants venant de quatre coins du monde et d'Asie en particulier, il y a toutes les religions, il y a des athées. On ne demande pas de certificat de baptême pour entrer dans une université catholique. C'est un premier point. Et deuxième point, c'est plus la motivation qui va être le critère, bien entendu, y compris parfois pour des jeunes qui ont peut-être des niveaux scolaires légèrement inférieurs à ce qu'on attendrait, mais qui ont de la motivation, parce que ça fait vraiment partie de notre mission, que d'aider des jeunes à prendre tout leur déploiement et toute leur ampleur, non seulement dans les disciplines qu'ils vont étudier, et non seulement dans des compétences métiers, techniques, mais aussi dans le rayonnement humain, dans ce qu'on appelle la formation humaine, au sens très large de ce terme, structurer des hommes et des femmes qui tiennent debout et qui prennent leurs responsabilités dans la société.
Vos effectifs sont à la hausse. Est-ce que ça vous réjouit finalement ou est-ce qu'en même temps ça vous inquiète comme c'est le cas pour les universités publiques, Pierre Giorgini?
C'est-à-dire que, alors d'abord, peut-être redire deux mots de la situation particulière de Lille. C'est que Lille, nous avons 27 000 étudiants, 7 000 qui sont sur les facultés, c'est-à-dire le cœur, le reste dans des grandes écoles qui font partie de la Cato, l'université catholique. C'est une des plus grosses, 27 000 étudiants. Donc dans les écoles, souvent, la sélection se fait par concours. Ce sont des concours d'entrée nationaux ou internationaux. Voilà. Donc voilà un peu le cadre aujourd'hui de notre recrutement.
Donc rien à voir avec l'université publique.
Et j'ai eu juste un petit trou, c'est que par rapport aux universités, il est clair que le volume d'effectifs est un élément important parce que nous ne sommes pas financés par l'État ou très peu financés par l'État, donc c'est un élément de chiffre d'affaires. Mais d'un autre côté, comme nous ne sommes pas à but lucratif, c'est très très important, nous ne cherchons pas à croître pour croître.
Alors justement, une question d'Arthur qui est posée, il est à Kigali au Rwanda. Les universités catholiques apportent un enseignement bien plus complet parce qu'elles ont de l'argent, nous dit Arthur. D'où viennent leurs financements ?
Alors, encore une fois, ça dépend des pays certainement, hein, dans la comparaison avec les universités publiques, mais nous avons des budgets très nettement inférieurs aux universités publiques, il faut le savoir. Et les frais d'inscription représentent à peu près 75% de notre budget. Ensuite, il y a moins de environ 13% par le contrat avec l'État, voyez. Et le reste, ce sont des mécénats, c'est des contrats de recherche. Donc, il faut déployer énormément d'ingénierie ingéniosité pour faire tourner...
L'argent de l'Église, ça représente combien?
Ça représente zéro. Au sens que les diocèses en France cherchent même de l'argent pour avoir des budgets équilibrés. Donc, bien sûr que dans les mécènes, il y a des chrétiens et des catholiques, mais
pour les
l'argent
universités
des diocèses
n'émarge très, très peu. À l'international, il y a des universités catholiques qui, elles, perçoivent vraiment de l'argent de l'Église.
En Belgique,
mais en Afrique, bien sûr que les diocèses soutiennent en particulier leurs universités catholiques, ce qui est tout à fait, c'est une situation tout à fait différente. Hein. Mais d'une manière générale, je le vois dans la Fédération internationale des universités catholiques. D'abord, beaucoup de pays ont un système où les universités catholiques sont subventionnées beaucoup plus par l'État qu'en France, par exemple. Et lorsque ce n'est pas le cas, il y a en effet des fondations qui les aident, hein, et parfois aussi l'Église locale. Là, les situations sont très diverses. En tout cas, en France, non. Hein.
Vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec Georges Abel. Bonjour Georges Abel.
Bonjour Emmanuel.
Alors Georges Abel, on va être honnête avec nos auditeurs. Vous êtes un auditeur de l'émission, mais vous êtes aussi un jeune journaliste à la rédaction Mandingue de RFI. Et il se trouve que vous êtes ancien étudiant de l'Université catholique de Bamako et vous aviez envie de nous livrer votre témoignage. Je crois que vous êtes arrivé à l'Université catholique de Bamako après un an d'études de droit à l'Université publique de Bamako. C'est bien cela, Georges ?
Oui, c'est bien cela, Emmanuel, parce que moi, je ne voulais pas spécialement étudier à l'Université catholique. Vu que j'étais déjà à l'université publique de Bamako, mais il y avait le désordre, puis du laisser-aller, ce n'est pas pour dénigrer. Et moi, je voulais plus de rigueur, de sérieux et d'ordre. Ça peut paraître étonnant parce que le milieu universitaire est plutôt soft, où on laisse le soin à l'étudiant de prendre des choix, de venir ou ne pas, de suivre ou pas les cours.
Ouais.
Mais moi, je voulais plus de rigueur. Et peut-être que j'avais une prédisposition parce que j'avais fait aussi un collège catholique, donc j'avais en tête l'image d'une université catholique où règne l'ordre et puis la rigueur.
Oui.
Donc c'est bien évidemment ce qui a motivé mon choix vers l'université catholique.
Vous aviez envie aussi de retrouver un certain type d'esprit ou c'est simplement de trouver une université qui fonctionne correctement?
Il y a aussi l'esprit, parce que l'esprit plus le fait que l'université marche correctement, parce que les deux vont ensemble. Le fait d'avoir des professeurs prêts, moi je pense que c'est un plus, parce qu'ils sont engagés au-delà du métier, et pour eux c'est un sacerdoce. Donc je voulais aussi ce test-ci et puis.
Alors néanmoins évidemment c'est pas le même prix hein, non plus quand vous comparez avec l'université publique de Bamako. vous avez payé combien pour un an d'études? Vous avez étudié plusieurs années à l'université catholique de Bamako.
Oui, pour un an d'études c'est à peu près 1000 euros, l'équivalent de 650 000 francs.
Ouais. Combien l'université publique?
L'université publique, vu que je suis malien, donc je paie juste 10 euros, à peu près 6 000 francs.
Donc, est-ce qu'on peut comparer 10 euros et 1 000 euros?
La plus chère non plus à Bamako, quoi. Puisqu'il y avait des universités qui coûtaient 1 million de francs CFA par an. Voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir livré votre témoignage, Georges. On accueille un professeur qui enseigne la philosophie à l'université catholique de Bamako, je crois. Bonjour, Abdoulaye.
Bonjour.
C'est bien cela, vous êtes prof de philo, hein ?
Oui.
Nous vous écoutons.
Professeur de philo de l'éducation, oui.
Nous vous écoutons, Abdoulaye.
Bon, écoutez, j'ai réagi d'abord sur la cherté des coûts d'inscription à l'Université catholique de Bamako. J'ai dit d'abord, l'éducation n'a pas de prix. L'éducation a peut-être un coût. Et cela dit, ce qu'on paye en marge de ce qui est normal, à payer, ce qui est normal de payer au niveau de l'université publique, est plus élevé que ce qu'on paye à l'UQAO. Vous voyez, donc c'est une question de posture.
Qu'est-ce que vous voulez dire en marge?
En marge, les cours organisés par les professeurs, les brochures qu'on donne aux gens, et ce qu'on paye pour soudoyer les professeurs, ce qu'on paye pour acheter les notes, tout ça là accumulé vaut plus que ce qu'on paye à l'ICAO. Mmh. Je ne fais pas de la publicité, loin de moi, je n'ai pas l'intention.
Ça veut dire que vous, Abdoulaye, en tant que professeur de philosophie, si vous proposez de vendre vos polycopiés à vos étudiants, que se passe-t-il?
Ce que je ne ferai pas d'abord, je m'inscris complètement en marge de ça, je ne ferai pas ça. Je suis là pour accompagner les étudiants de façon individualisée ou collective. Je suis prêt à me sacrifier pour mes étudiants plutôt que de leur vendre. Je suis contre la marchandisation du savoir. Mmh. Vous savez, c'est un des fléaux de notre enseignement supérieur. Mmh. Je suis carrément contre ça. Je suis prêt à me sacrifier pour eux, comme d'autres l'ont fait pour moi, plutôt que de vendre mes cours. Mmh. Non, ça je ne ferai pas.
Qui sont vos étudiants, Abdoulaye, socialement?
Bon, mes étudiants socialement, mais ils sont de tous les ordres, hein. Ils sont de tous les ordres, de toutes les confessions. Il n'y a aucune espèce de discrimination quant au choix des étudiants. C'est une question de motivation. Ceux qui voudraient aller à des qualités d'enseignement plus élevées vont à l'UQAO plutôt que d'aller à l'université publique.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, en tout cas Abdoulaye, hein, au standard. Je rappelle le numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Je ne sais pas comment vous réagissez tous les deux, Thierry Magnin et Pierre Giorgini. On a vraiment le sentiment que les universités catholiques aujourd'hui s'affirment comme une troisième voie entre le tout privé, le tout marchandisation, l'enseignement supérieur à but lucratif et un secteur public qui, que ce soit dans les pays d'ailleurs développés ou dans les pays pauvres, a du mal avec ses financements.
Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, en France, ça se manifeste par un statut que l'État français est en train de nous donner d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, justement à but non lucratif, participant, collaborant aux missions de service public de l'éducation nationale dans le supérieur. C'est particulièrement intéressant, cette posture-là, en tout cas pour la France, hein. Moi, je ne suis pas en train d'opposer l'université publique et l'université catholique, surtout pas. Il y a des complémentarités, justement, pour le service public de l'éducation dans le supérieur. Et c'est ça qu'on joue aussi dans le cadre des communautés d'universités et d'établissements qui se montent en France actuellement. Et nous pouvons en effet apporter nos spécificités. Dans nos spécificités, il y a notamment le croisement des disciplines, cette formation humaine dont je parlais tout à l'heure.
Néanmoins, vous bénéficiez quand même d'une relative mauvaise image de l'université, du moins en licence, avec des taux d'échecs très élevés, près de 40% d'échecs en licence souvent. Vous avez des taux de réussite extrêmement élevés.
Voilà. Alors pourquoi nous avons...
Autour de quoi? 80-90%?
Oui, 75%.
Mais comment ça se fait qu'on réussisse si bien? Est-ce que vous êtes moins exigeant?
Non, juste, ce sont les mêmes, vous savez, c'est pratiquement les mêmes examens, hein, et même il y a parfois des jurys très communs, donc ce sont les mêmes examens. Non, simplement, vous voyez, quand vous accompagnez des étudiants dans des promotions à taille très humaine, hein, vous pouvez bien sûr proposer une forme de tutorat qui fait que les personnes sont pas meilleures au début, les cours sont les mêmes, mais vous pouvez faire le point avec elles, vous pouvez les aider à ne pas partir et avoir des méthodes de travail, et ça paye à la sortie, bien entendu. Donc tout cet accompagnement personnalisé des étudiants, c'est quelque chose de clé. Il ne s'agit pas de les coucouner, hein, mais il s'agit de les accompagner pour qu'ils prennent petit à petit leur essor.
Pierre Giorgini.
Oui, je pense qu'il y a aussi, parce qu'on pourrait se dire, mais entre guillemets, c'est quoi ce miracle? C'est-à-dire qu'ils ont moins de moyens et leurs locaux paraissent de meilleure qualité qu'un accompagnement individualisé, etc.
La dépense est moins importante par tête d'étudiant dans une université catholique que dans une université publique.
Exactement.
C'est l'État qui paye, mais la dépense est beaucoup plus importante.
Exactement. Alors, ce n'est pas du tout lié au fait que nos enseignants-chercheurs seraient dévoués, ceux du public, pas du tout. Les enseignants-chercheurs du public sont souvent des gens admirables et très dévoués. C'est lié au fait que nous avons... nous sommes en gestion privée. Donc, depuis des décennies, nous empruntons, nous investissons dans l'immobilier. C'est-à-dire le fait que nous ayons une souplesse de gestion de notre patrimoine, et notamment de nos actifs immobilisés, nous donne des latitudes financières qui fait que nos locaux sont en permanence revisités, réactualisés, retravaillés, parce que nous avons cette capacité.
On va y revenir. Les universités catholiques en discussion, leur succès est-il justifié selon vous? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Juste après le flash, vous revenez.
Géopolitique, voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons d'éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, il s'agit des universités catholiques. Elles sont souvent assez discrètes, comme en France, où pourtant leurs effectifs ne cessent d'augmenter. On a parlé de l'esprit de ces universités, de leur organisation, de leur gestion, de la sélection, du prix aussi. Vous posez de nombreuses questions à propos des prix. Nous en discutons avec vous, Thierry Magnien, recteur de l'Université catholique de Lyon. Père Thierry Magnien et Pierre Giorgini, qui est recteur de l'Université catholique de Lille, l'une des plus grosses, la plus grosse université catholique en France, avec près de 25 000 étudiants. En tout, d'ailleurs, il y a 62 000 étudiants dans les universités catholiques en France, dans plusieurs villes, Paris, Angers, Lyon, Lille, Toulouse. Nous sommes en ligne maintenant avec une enseignante à Tokyo. Bonjour Muriel Jolivet.
Bonjour.
Muriel Jolivet, vous êtes sociologue française à l'université Sophia de Tokyo, qui est une université jésuite qui a été fondée au début du XXe siècle et qui est classée troisième parmi les universités privées japonaises. Alors, dans un pays qui est tout de même assez omnubilé par la compétition scolaire, quelle est la spécificité d'une université jésuite comme Sophia ?
Si vous voulez, la spécificité, c'est plutôt l'image d'une université, ce qu'ils appellent Mission School au Japon, une université chrétienne. C'est l'image d'un très bon service, d'un bon accueil et puis d'un bon esprit, je pense. Et je ne pense pas que ça ait beaucoup changé depuis le début. L'image est restée intacte et je crois que ça correspond assez bien avec l'atmosphère de l'époque Meiji, le confucianisme, une morale qui, globalement, coïncide assez bien.
Mais dans une société japonaise où les jeunes vivent des situations difficiles, où globalement, ils se sentent très seuls dans cette société japonaise, est-ce que vous diriez qu'il y a un climat de plus grande humanité dans une université catholique ou pas spécialement? Finalement, c'est la société japonaise qui recouvre tout cela.
Non, enfin, je pense qu'effectivement, dans le privé, d'ailleurs, c'est l'opinion des étudiants, le service est meilleur. On est beaucoup plus près de nos étudiants, on les connaît bien, ils viennent nous voir quand ils ont un problème, on discute ensemble. On est beaucoup plus à leur écoute et à leur service que dans les universités publiques.
Il y a une réelle ouverture internationale dans votre université, ce qui n'est pas si courant non, pour les universités japonaises.
Ben, vous savez, le mot Kokusaika, internationalisation, est un grand mot lancé déjà depuis 10 ou 20 ans. C'est très à la mode de faire international. Donc, si vous voulez, notre université a beaucoup d'enseignants étrangers. Mmh. J'ai des collègues russes, espagnols, portugais. Enfin, il y a quand même énormément de langues enseignées. Donc, c'est ce côté international qui fait que ça donne une bonne image aussi.
Ouais. Très peu d'étudiants chrétiens ?
Écoutez, oui, peu, très peu, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'adhèrent pas à une certaine morale ou une certaine vision de la vie. Mais beaucoup, en revanche, viennent de l'enseignement privé depuis, par exemple, le primaire. Mmh. Ils ont été déjà dans une école privée ou chrétienne petit, et ils continuent jusqu'à l'université.
Oui, mais vous me disiez, quand on a préparé cet entretien ensemble, que de toute façon, dans l'ensemble, vos étudiants sont finalement sans religion aujourd'hui.
Oui. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a une grande tolérance. Ils sont ni pour ni contre, ni intéressés ni désintéressés. Ils sont assez indifférents, comme la majorité des Japonais.
Merci beaucoup Muriel Jolivet d'avoir été en ligne avec nous. Votre dernier ouvrage d'ailleurs s'appelle Confidence du Japon et parle beaucoup des jeunes aux éditions Elitis. Alors voilà un exemple d'université catholique qui n'est pas dans son fief, on va dire, non Pierre Giorgini?
Oui bien sûr, mais vous savez souvent ceux qui nous connaissent mal pensent que nous ne recrutons dans nos universités, sur les 27 000 étudiants de la cathédrale de Lille, nous aurions 27 000 chrétiens ou en préparation d'une recristianisation. C'est pas pas du tout le cas. C'est-à-dire que notre université est dans la société qui se sécularise. Nous avons évidemment des catholiques, chrétiens, mais nous avons aussi des musulmans, des gens de toutes religions, et puis évidemment des agnostiques, etc. Mmh. Mais je crois que ça, comme il est très bien dit par la personne qui est intervenue, je crois que c'est pas parce qu'on n'est pas ou catholique ou croyant que l'on n'est pas en attente de donner du sens à ce que l'on fait et d'être dans un environnement qui simplement affirme ses valeurs, même si le au nom de quoi ces valeurs
des
sont
valeurs
affirmées,
humaines,
des
fait.
Valeurs humaines, humanistes, et on peut très bien partager les valeurs sans forcément partager la source qui fonde ces valeurs.
Mmh. Thierry Magnien, les universités catholiques dans le monde, on en trouve dans de nombreux pays qui ne sont pas précisément des pays chrétiens.
Tout à fait, j'en cite deux exemples si vous voulez. En Inde, par exemple, à Bangalore, il y a 2% de chrétiens en Inde. Et justement, l'université catholique de Bangalore attire elle aussi beaucoup, avec 80% d'hindous, par exemple. Et pourquoi ? Parce que je pense que les valeurs, en effet, humaines, notamment de la personne humaine, pourtant on est dans un contexte complètement différent.
Et pourtant, il y a de bonnes universités, y compris privées, en Inde.
Très bonnes universités, mais je pense que ces valeurs porteuses, qui sont les valeurs de l'évangile et de la tradition chrétienne, mais offertes à tout le monde, rejoignent des gens qui ont d'autres religions, d'autres perspectives culturelles, et elles participent, me semble-t-il, au service de la société. Ça, c'est aussi un élément très important à intégrer dans nos cursus. De la même manière, vous voyez, une université catholique à Bethléem, en Palestine, avec la situation et le contexte de la Palestine aujourd'hui, 75% de musulmans, 25% de chrétiens. Comment une université catholique peut participer à une culture de paix ouverte à des religions très différentes et en même temps participant à la recherche de la paix dans un État qui est si divisé.
Et bien justement, vous posez une bonne question, nous allons la poser également au recteur de l'Université catholique de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour, Paul Kadundu Karamikire.
Bonjour.
Paul Kadundu, vous êtes également prêtre et vous êtes recteur de l'Université catholique de Bukavu depuis 5 ans. Alors, quelle est la place de votre université dans le paysage des universités à l'est de la RDC, une région évidemment qui est dans une situation difficile?
Merci. Je crois que l'Université catholique de Bukavu, en fait, devise, a ouvert, je crois, la porte à l'ouverture de plusieurs universités privées. Et cela fait que nous sommes dans une sorte de concurrence parfois agressive. Mais lorsqu'on pose la question aux étudiants, comme on l'a fait dernièrement avec la cellule de communication, nos étudiants qui arrivent disent que leurs parents leur demandent de venir étudier chez nous parce que nous sommes catholiques, parce qu'on a une bonne formation, et in fine aussi parce que ça revient moins cher malgré tout ce qu'on peut dire.
Ça revient moins cher. Attendez, vos frais, les frais d'inscription chez vous, c'est aux alentours de $500 l'année, c'est ça?
En moyenne, oui. Bien sûr que pour certains, c'est un peu plus élevé, comme à la faculté de médecine. Oui,
mais à l'université publique, c'est un peu plus bas. À l'université publique de Bukavu, c'est nettement moins.
C'est nettement moins, mais j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un de Bamako qui parlait de ventes, de ceci, de cela. Et nous avons diligenté une étude en sciences économiques l'année dernière pour arriver à avoir des arguments à présenter aux parents pendant les réunions que nous organisons donc en Assemblée générale avec eux. Mmh. Et l'étude a montré que véritablement nous étions les moins chers. Et il y a ce que nous avons appelé ici la taxation douce, à travers le fait qu'on ne montre pas aux parents tout à fait le coût de la formation de leurs enfants. Et progressivement, on demande, je ne sais pas, frais syllabus, frais d'auteur, etc.
Ouais.
Et en dépit du fait que l'État quand même subventionne les rémunérations des professeurs.
Oui, ce qui n'empêche pas de taxer les familles de la part de l'université publique. J'aime beaucoup cette formule de taxation douce. Vous avez le sens de la formule chez vous au Congo, parce qu'il y a aussi les frais de motivation à l'école primaire, hein, aussi, dans ces cas-là, dans le même genre de formule.
Ne le fait pas officiellement, parce qu'ils disent des instructions du ministère qui interdisent cela. Mais je crois qu'il faudrait encore du temps pour que les instructions du ministre puissent avoir leurs effets. Mais chez nous...
Père Kadounou, il y a forcément des professeurs qui ont besoin, qui n'ont pas un gros salaire et qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois, qui sont tentés de vendre des cours bien préparés, par exemple. Que se passe-t-il dans ces cas-là?
Enfin, pour les enseignants permanents à l'université, ils savent que c'est strictement interdit. Ils n'osent même pas faire cela. Par contre, quand nous avons des professeurs visiteurs qui viennent des établissements publics, on voit qu'il y a cette tendance-là et à plusieurs reprises, nous avons dû refuser à l'un ou l'autre de pouvoir revenir. Il est arrivé qu'il le fasse en pleine classe et nous l'apprenons. Nous disons non, nous payons nous-mêmes ce qu'il a demandé aux étudiants, mais la prochaine fois, on ne l'invite plus.
Je vous lis quand même le message de Delphine à Bukavu, qui ne semble pas persuadée par vos arguments. L'université catholique de Bukavu est réputée pour sa formation et son sérieux. Ça, visiblement, personne ne le met en cause. Le problème, c'est qu'elle est plus chère qu'une université publique dans un pays où le taux de chômage est très élevé, la population très pauvre. Voilà, je ne comprends pas. Concernant, je sais que vous sentez un rôle à jouer dans l'éducation à la paix.
Bien sûr, oui. Je crois qu'au niveau de la formation, on doit tenir compte de cela. Véritablement, la paix durable commence dans des familles où on doit éduquer les jeunes, les enfants à la paix et à la cohabitation pacifique. Mais au niveau de l'université, je crois que ce qu'il faut, c'est de voir comment on puisse garantir la diversité des personnes au sein de la classe enseignante, mais également au sein des apprenants, au sein des étudiants. Alors, la meilleure façon de le faire, à mon avis, c'est de... Enfin, nous travaillons sur le renforcement des règles et des normes de manière à garantir la même chance à tous.
Oui.
Ça, c'est la première chose. Donc, n'importe qui, qu'il soit fille, qu'il soit garçon, qu'il vienne de tel groupe ethnique ou tel autre, eh bien, il sait que lorsqu'il a les capacités, lorsqu'il a des compétences, ces compétences-là peuvent trouver un espace d'expression dans notre... Oui.
Et c'est cela que vous mettez en avant auprès des familles. Vous parliez de concurrence agressive de la part d'universités privées. Vous parlez d'universités privées à but lucratif, les universités protestantes. De quoi parlez-vous exactement quand vous faites face à cette concurrence agressive?
Oui, c'est vrai. On a un conglomérat, je dirais, d'institutions universitaires, d'instituts supérieurs, etc. Et ça, je crois que généralement, c'est aussi à des fins politiciennes. Mmh. Il y a des politiciens ou des commerçants qui créent ceci pour faire plaisir à leur électorat, mais à la fin, c'est non viable. Alors nous, à notre niveau, ce que nous faisons, c'est d'identifier des universités qui sont reconnues d'abord par le pouvoir, par le ministère, et nous entrons en partenariat avec ces universités-là. Au stade, nous en sommes, par exemple, je suis ici en Belgique, et mardi passé, nous étions à l'Université catholique de Louvain avec le recteur de l'Université évangélique en Afrique. C'était pour voir comment ensemble nous pouvons mettre en place un troisième cycle à médecine qui soit crédible pour la spécialisation en chirurgie, en gynécologie, en médecine interne.
Évidemment, des besoins énormes sur place, bien sûr, dans ce domaine-là. Vous en êtes à votre deuxième mandat, Père Kadundu. Il y aura un troisième mandat?
Il n'y a pas de troisième mandat. Le mandat du recteur, il est de 4 ans renouvelable une seule fois.
Ah oui, bon, c'est très clair, je vois.
Voilà, donc je suis dans mon dernier mandat. Voilà.
Merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous. Vous pouvez nous appeler, les voisins et les voisines, si vous voulez nous joindre à nos discussions sur les universités catholiques dans le monde. 33 1 84 22 71 71. Merci beaucoup, Paul Kadundu, recteur de l'Université catholique de Bukavu.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Comment vous réagissez, Thierry Magnien, Pierre Giorgini, aux explications et surtout à la mission que se fixe l'Université catholique de Bukavu, Thierry Magnien?
Oui, cette culture de la paix, je pense que ça c'est indispensable dans ces pays-là, mais dans tous les pays aussi. On peut prendre la France aussi aujourd'hui avec notamment ces énormes questions sur l'interreligieux et l'interculturel. Ça, ce sont aussi des spécialités de nos universités catholiques parce que dans nos universités catholiques, nous avons la chance de pouvoir enseigner des disciplines extrêmement différentes et de pouvoir les croiser, de pouvoir faire de l'interdisciplinaire, de l'interculturel, de l'interreligieux, de pouvoir avoir un lieu de dialogue vraiment fort entre toutes ces disciplines. Ça, je pense que ça aide à la compréhension de ce monde complexe, ça aide au vivre ensemble. Et en lien avec les engagements sociaux qui sont prônés dans les formations de nos étudiants, voyez, apprendre l'interculturel, l'interreligieux, puis le vivre sur le terrain dans des engagements sociaux. Cette alliance-là, je pense que ça forme des citoyens qui ont envie de construire une société de paix.
Alors on vient bien sûr aussi à l'Université catholique, parfois pour obtenir un diplôme canonique qui est reconnu auprès du Saint-Siège, même si c'est une minorité parmi les diplômes que
bien
vous,
sûr, très important
que
pour
vous
nous,
délivrez. Oui. On vient donc pour son enseignement de la théologie.
Alors la théologie, la philosophie aussi, bien entendu, comme élément fondateur de nos universités catholiques, mais aussi en interaction avec les autres disciplines. Je prends une faculté de philosophie, par exemple. Comment la philosophie peut irriguer le champ de l'économie, par exemple. Philo-management, comment on peut manager de manière humaniste.
Remettre de l'éthique chez les patrons, c'est ça, par exemple ?
Bien sûr. L'enseignement social de l'Église, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, le catholicisme social en France est très porteur de cela depuis longtemps déjà. Et je pense qu'il y a là des croisements qui sont extrêmement intéressants. Comment on peut faire de la biologie aujourd'hui en s'ouvrant aussi aux grandes questions de bioéthique, pas simplement être des spécialistes scientifiques et technologiques, mais à l'intérieur de belles compétences dans ce domaine-là, avoir aussi une ouverture sur les grandes questions d'éthique, c'est fondamental.
Je sais que vous dialoguez tous régulièrement avec des imams progressistes dans les universités catholiques. Certains de ces imams disent qu'il y a aujourd'hui urgence à organiser une formation théologique solide pour les imams pour faire face à la montée du radicalisme. Les universités catholiques, grâce à leur ouverture spirituelle, ont été il y a quelques années sollicités. Où est-ce que ça en est ?
Alors, Paris avait déjà commencé. À Lyon, nous avons par exemple actuellement deux formations à destination du monde musulman. Nous formons des imams et des responsables d'organisations musulmanes. Alors, pas au Coran, mais à droit, religion, laïcité en France déjà, à la culture, s'inculturer en France. Nous formons aussi des personnels des administrations publiques qui ont affaire à des musulmans et qui ne savent pas trop par quel bout le prendre. Et puis, nous sommes en lien vraiment avec des musulmans qui ont de fait envie d'ouvrir à l'exégèse, par exemple, à l'analyse critique des textes fondateurs, à la prise de recul, comme nous le faisons en théologie. Ils ont envie de le faire par rapport à la religion musulmane. Nous encourageons, je crois, cette ouverture.
Alors, on ne vient pas que dans les universités catholiques pour étudier les sciences humaines, même si c'est vrai qu'il y a une tradition. D'ailleurs, l'université de Bukavu, on ne l'a pas dit, mais c'est une université qui est très, très coté pour l'enseignement en droit. Pierre Giorgini, vous êtes ingénieur de formation. Et évidemment, vous êtes ingénieur du numérique, d'ailleurs. C'est bien cela.
Oui, tout à fait.
Donc,
oui.
Vous misez aussi beaucoup sur ces métiers-là, ces filières-là.
Oui, en fait, moi, je suis de formation ingénieur, mais j'ai découvert la philosophie à 40 ans. Et je pense, d'ailleurs, c'est ce qui me venait à l'esprit en entendant, y compris tous les intervenants. On sent bien qu'il y a une espèce de souffle, quelque chose qui traverse toutes ces universités, qui est le fait que nous sommes incroyablement contemporains parce que nous avons un projet éducatif intégral. Et je crois que l'encyclique du pape, Laudato Si, sur le prendre soin de la maison commune, dépasse largement, ne s'adresse pas qu'aux chrétiens, il s'adresse au monde entier. Et on voit bien que les valeurs qu'il porte sur l'interdisciplinarité, sur des questions posées vis-à-vis à la fois de notre environnement, mais aussi de notre humanité en tant que collectivité humaine, est incroyablement contemporain. Et nous avons des atouts de par cette approche d'éducation intégrale et non pas le réductionnisme disciplinaire. Vous voyez bien que depuis le début, on a finalement parlé assez peu de l'excellence disciplinaire au sens de discipline une par une. On a parlé vraiment de cette question de l'éducation intégrale. Donc en ça, c'est très contemporain.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Le succès des universités catholiques vous semble-t-il justifié ? Nous accueillons une voisine qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Carole, soyez la bienvenue.
Bonjour Emmanuel.
On vous écoute.
Merci. Ok, je suis diplômée d'une université catholique à Abidjan. Et j'aimerais pousser un cri de gueule vraiment à l'endroit de ces universités en Afrique,
ouais.
Les universités catholiques, parce que j'ai remarqué que ces universités manquent d'une certaine stratégie de management afin de suivre les étudiants après leur diplôme, quant à l'obtention d'un emploi, même d'un stage. Donc, parce que moi, je suis diplômée, comme je l'ai dit, mais jusque-là, je n'ai pu faire aucun stage. Et même les petits travaux, ça je peux m'exprimer un peu, que j'ai eu à trouver, ça a été de ma propre initiative.
Ouais. Vous avez un diplôme de quoi, Carole, à l'Université catholique d'Abidjan ?
J'ai une maîtrise en droit.
Oui. Et avec une maîtrise en droit, vous ne parvenez pas à vous insérer dans le milieu professionnel ?
Effectivement. Et je veux même relever le fait que non seulement moi, mais plusieurs amis avec qui on a fait l'université, Aujourd'hui, quand on se rencontre, beaucoup ont jusque-là encore rien trouvé, pas même un stage en cabinet, de sorte à pouvoir se faire la main.
Mais pour vos camarades qui ont étudié le droit de la même façon à l'université publique d'Abidjan, c'est la même chose ou pas?
Oui, c'est la même chose pour la majorité.
D'accord. Donc en fait, vous dites qu'il n'y a pas de valeur ajoutée finalement à un diplôme de droit à l'université catholique d'Abidjan. Vous avez les mêmes problèmes que les autres.
Effectivement, et en plus, on ne voit pas des efforts au niveau de l'université, c'est-à-dire au niveau de la direction, pour aider les diplômés qui sortent de ces universités à pouvoir trouver ne serait-ce qu'un stage.
Thierry Magnien.
Et ça fait que...
Restez avec nous, Carole. On va donner la parole à Thierry Magnien, qui est le vice-président de la Fédération internationale des universités catholiques.
Alors, c'est pourtant en effet une tradition dans ces universités catholiques que de proposer des stages qui sont fondamentaux après pour pouvoir trouver un travail, dès la licence d'ailleurs. Ça, c'est une des spécificités. Donc, quand on arrive en maîtrise encore plus, d'autant qu'aujourd'hui, les masters ont une visée, l'articulation, recherche, formation, professionnalisation et retour. En principe, quand on met sur pied un master, on doit avoir derrière un réseau d'employeurs potentiels. Alors, je me doute bien qu'il y a des différences d'un pays à un autre, mais en tout cas, pour nous, c'est vraiment un axe majeur. Donc là, en effet, il y a certainement un travail à faire. Ceci dit, pour connaître l'université catholique à Abidjan, je pense qu'il y a dans beaucoup de disciplines cet axe recherche, formation, professionnalisation.
Carole, vous êtes sortie à combien de temps de l'université catholique d'Abidjan maintenant?
Maintenant, on compte 6 ans.
Ah oui? Et vous faites toujours des petits boulots, c'est ça?
Effectivement. Et là, je n'ai même pas encore trouvé, je peux dire, un travail de ma spécialité. Et même un seul stage, vraiment, c'est tout un problème.
Oui. Bon, Carole, on vous souhaite bon courage. C'est vrai que vous êtes dans un pays où les jeunes ont beaucoup de mal à s'insérer professionnellement. Merci en tout cas beaucoup de nous avoir appelé au 33 1 84 22 71 71. Je voudrais qu'on parle des enseignants dans les universités catholiques. Alors, bien sûr, on ne peut pas généraliser dans toutes les universités catholiques, mais du moins en France. Comment sont-ils recrutés? Ont-ils les mêmes niveaux de diplôme qu'un enseignant d'université? Sont-ils tenus de faire de la recherche aussi? Comment vous vous insérez dans la compétition internationale des universités aujourd'hui?
Alors bien sûr, ce sont des enseignants-chercheurs que nous essayons de recruter la plupart du temps, dans les mêmes catégories, si je puis dire, que dans l'université publique. D'ailleurs, souvent, lorsque nous les recrutons comme maîtres de conférences, nous sommes très sensibles au fait qu'ils aient eu ce qu'on appelle la qualification par l'éducation nationale et l'enseignement supérieur déjà, qualifiés pour postuler à devenir maîtres de conférences dans l'université publique. La difficulté pour nous, c'est de subventionner les temps de recherche, bien entendu, puisque là, nous n'avons absolument aucun subside pour cela, si ce n'est des contrats de recherche que nous trouvons par nous-mêmes. Donc, nous avons moins d'enseignants-chercheurs, plus d'enseignants que d'enseignants-chercheurs, en proportion par rapport à l'université publique, mais bien sûr, nous montons en puissance là-dedans.
Oui, ce qu'il faut souligner d'ailleurs, c'est que depuis la contractualisation avec l'État, et y compris associé à ce statut des SPIG dont parlait Thierry tout à l'heure, nous sommes évalués par l'HCERS, c'est-à-dire que nos activités de recherche sont évaluées par la haute agence d'évaluation, comme les universités publiques. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas ridicules en recherche, loin s'en faut, même si évidemment nous avons moins de moyens, ce qui nous oblige à beaucoup focaliser notre recherche, c'est-à-dire avoir des laboratoires sur des thématiques où on peut faire de la différence en quelque sorte, mais je vois chez nous à Lille, par exemple, nous sommes très réputés en éthique. Nous avons un centre de recherche sur le risque en droit qui est de bonne réputation. Nous avons même des UMR, c'est-à-dire des unités mixtes de recherche avec le CNRS et avec l'université publique.
Mais c'est vrai que globalement, on entend peu vos enseignants, chercheurs dans le débat public. On les lit peu, ils éditent peu de livres. Enfin, c'est vrai que vous êtes très discret quand même.
Là, je pense que ils sont peut-être discrets dans la manière de parler d'où ils viennent, mais non, nous sommes très sollicités dans beaucoup de débats. Alors aujourd'hui, surtout les personnels laïcs, je dirais, parce qu'aujourd'hui en France, c'est plus difficile quand on est prêt d'être invité sur un plateau de télévision.
Ah
mais
bon?
Oui.
Vraiment?
On voit une différence, oui, aujourd'hui, par rapport à il y a 15-20 ans, oui, c'est sûr. Mais regardez, quand on invite quelqu'un pour parler de la religion, on invite Odon Vallée ou Frédéric Lenoir, qui sont d'ailleurs d'excellentes personnes. Voilà. Mais bon, nos enseignants laïcs sont, je crois, participant très largement au débat sociétal.
Les
oui,
professeurs...
et en publication, enfin d'abord, vous en avez un devant vous ou deux qui ne manquent pas de publier, mais vous avez aussi pas mal de publications d'ouvrages très importants qui sont aussi bien à la Cato de Paris et à la Cato de Lille ou ailleurs, avec des tirages importants. Non, je pense que... Et quand on mesure d'ailleurs notre, ce qu'on appelle un peu l'impact recherche, dans les publications avec des revues à comité de lecture, on est loin d'être ridicule. Notre taux de publication, on vient de faire l'évaluation à Lille, est de l'ordre de 2 publications avec comité de lecture par chercheur en moyenne et par an, ce qui est très important.
Non, mais je parlais vraiment de la visibilité dans le débat public français.
C'est vrai qu'on est...
D'autant plus que vous êtes sur le territoire des sciences humaines, beaucoup.
On ne peut pas dire qu'on est ostracisé, ça ne serait pas juste, mais enfin, quand même, on n'est pas toujours très impliqué dans le débat. Mais nous, ça nous va bien, vous savez, surtout dans le Nord, on dit souvent, pour vivre bien, vivons cachés.
Ah, c'est ce que j'allais dire, pour vivre heureux, vivons cachés.
Voilà, et nous sommes plutôt des faiseux que des diseux.
Donc finalement, votre réputation vous suffit d'une certaine façon.
Absolument.
Et l'intégration dans les axes de la société, être acteur de la construction de cette société, ça c'est pour nous fondamental.
Et votre cohérence.
Et notre cohérence, finalement. Oui. Bien en dialogue avec l'ensemble de la société, ça j'insiste là-dessus.
Avec cette troisième voie, vous n'êtes ni un enseignement supérieur à but lucratif, ni un enseignement public un peu prisonnier de ses dogmes, de ses dysfonctionnements et de sa lourdeur de gestion.
Mais cette troisième voie, d'ailleurs, n'est pas étonnante. Je vous rappelle que dans l'hospitalier, il existe aussi une troisième voie.
Merci en tout cas à tous les deux. Thierry Magnien, père Thierry Magnien, recteur de l'Université catholique de Lyon. Nous, on n'a aucun problème pour inviter des prêtres. Pierre Giorgini, recteur de l'Université catholique de Lille. Merci à vous les voisins et les voisines pour vos témoignages. Merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Camille Nérand, Romain Dubrac, Didier Cherouze. Lundi, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur l'amour et le remords. Ciel, mais pourquoi j'ai quitté mon ex? Si vous tentez désespérément de récupérer votre ex ou si vous êtes parvenu à réparer vos erreurs de choix, cette émission est pour vous. À lundi les voisins.